RCF.
La vie de Pauline Jaricot connaît une fin assez difficile, assez, on peut même dire tragique, Catherine Masson, parce que cette femme qui a mis tant d'énergie dans ses œuvres, qui a entrepris tellement de choses, se fait complètement avoir par deux escrocs. Elle se retrouve ruinée. Vous avez fait allusion à une éventuelle naïveté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Naïveté de sa part ?
Elle peut avoir, oui, c'est-à-dire qu'elle y connaissait peut-être pas grand-chose aux affaires. Elle a fait confiance. Hein. Bon, après, peut-être faut pas trop insister sur la naïveté. Par contre, il faut insister, et ça va marquer la fin de sa vie, sur son honnêteté foncière. Parce que là, quand l'usine va être en mauvais point, puis par la suite vendue. Comme il y a eu une période un peu difficile, elle a cherché à avoir de l'argent. Et comme elle était très connue par le rosaire, beaucoup de gens lui ont remis de leurs économies, grosses économies, petites économies. Elle a eu énormément de dons sur la foi de son nom de fondatrice du rosaire. Et quand elle se rend compte que tout cet argent
a été perdu,
elle prend un engagement formelle de rembourser tous ses créanciers, ce à quoi elle n'était juridiquement pas tenue. Il n'y a pas de faillite chez Pauline Lynn, elle n'a aucune... sur le plan juridique, elle n'a pas de problème, même les procès, elle va les gagner. Et elle n'était pas tenue à rembourser. Mais chacun aurait perdu, comme elle, jusqu'à concurrence de sa mise, quoi. Mais donc, elle va prendre l'engagement formel de rembourser ses créanciers. Et ça va la perdre, parce qu'elle ne va jamais y arriver. J'exagère en disant jamais. Elle va réussir certainement. Elle va faire une campagne pour avoir de l'argent et elle va réussir à rembourser une partie. Mais elle n'arrivera pas à rembourser la totalité.
La suite de l'histoire.
Est-ce que c'est par exemple la raison pour laquelle elle installe une sorte de péage entre sa maison de Lorette et Fourvière pour contribuer à récupérer un peu d'argent?
Alors, elle cherchait comment elle pouvait avoir de l'argent. Alors, au départ, elle a cherché à avoir de l'argent pour pouvoir relancer l'usine de Rustrel qu'elle appelait Notre-Dame des Anges. Puis après, elle va chercher à avoir de l'argent simplement quand l'usine n'existera plus en 1852 pour rembourser. Et donc, elle a cette idée, c'est de se dire, après tout, pour aller à Lorette depuis Lyon, pour aller à Fourvière, pardon, depuis Lyon, on passe à travers la propriété de Lorette si on faisait un chemin à péage. Le préfet du Rhône accepte, l'évêque, le cardinal de Bonald accepte, etc. C'est une idée géniale, elle le fait et ça démarre bien.
5 centimes, 5 sous, c'est ça?
Quelque chose comme ça, oui, je ne sais plus. Un petit péage et le calcul fait que la première année, ça je me souviens, ça a rapporté 15 000 francs. Bon. Et qu'en comptant ses dettes, et puis sur 20 ans, elle s'est dit « je rembourserai mes dettes ». Bon. Donc, c'était une bonne idée. Sauf que la voisine se dit « c'était une bonne idée » et fait la même chose. Et que finalement, la voisine, elle se plante dans le projet, elle vend sa maison, et elle vend sa maison à un chapelain de Fourvière, qui en fait était un sous-main de la toute nouvelle commission de Fourvière, dont le projet est de construire un sanctuaire pas de construire, il existe, hein, mais de rénover, agrandir le sanctuaire de Fourvière au sommet de la colline. Et à partir de là, Pauline se trouve aux prises avec des problèmes insurmontables et une hostilité insurmontable.
Donc la nouvelle commission de Fourvière est puissante commission ?
Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on n'a pas dit que avant. Quand Pauline a voulu trouver de l'argent, elle est partie, elle a fait tout un circuit en France et elle a été encouragée, entre autres, par le cardinal Villecourt, qui la connaissait depuis longtemps et qui lui a dit « Mais Pauline, vous êtes fondatrice de deux grandes œuvres qui, mondialement, sont très importantes. Vous pouvez faire appel à eux. » Et donc, elle va le faire. et elle va sillonner la France et d'autres pourraient aller avec elle vont le faire pour pouvoir récolter de l'argent. Et au départ, ça marche, parce que c'était pas grand-chose. Hein. Elle demandait quelques sous. Il y avait 2,5 millions à sa mort de zélateurs et zélatrices du rosaire. C'était... Donc elle pouvait le faire. Sauf que quand elle va revendiquer son titre de fondatrice de la propagation de la foi, le Conseil central de la propagation de la foi va dire un non absolu. Et à partir de ce moment-là, le Conseil central de la propagation de la foi va empêcher toutes les quêtes, y compris celles qui sont faites auprès des gens du rosaire, puisque finalement les associés du rosaire, les zélateurs, les membres de la propagation de la foi, etc., tout ça globalement c'est les mêmes. Et toutes les opérations vont être empêchées par le Conseil central de la propagation de la foi et la commission de Fourvière. En gros, c'est difficile de le dire en si peu de temps, mais il faudrait beaucoup plus nuancer cette question-là que je ne le fais en très peu de temps. Mais en gros, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes familles, il y a des intérêts. Et Pauline, elle l'a pas rappelé ça, pendant 20 ans qu'elle était fondatrice. Bon, et puis là, c'est une vieille dame, malade, moche, tout le monde se moque d'elle. Elle est à Lyon, elle a plus beaucoup de soutien, sauf encore peut-être dans sa famille du rosaire, mais il n'y a plus grand-chose autour d'elle, donc elle est...
Très isolée.
Assez isolée, sauf qu'elle garde des soutiens de poids. Mais des soutiens de poids, y compris le pape, mais même le pape ne peut rien. C'est ça qui est impressionnant.
Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'elle meurt ?
Alors, vous avez pu remarquer tout au long de ce parcours que Pauline est très fréquemment malade, bon, et que quelque part sa vie tout au long de ces années reste étonnante qu'elle reste toujours en vie, quoi. Donc elle est sans doute atteinte d'un problème cardiaque, on ne sait pas très bien lequel, et donc finalement à la fin de l'année 1861, elle ne va plus se relever et elle meurt ruinée. Entourée de ses amis, des filles de Marie qui restaient encore, de Maria par exemple qui avait fait qui a parcouru toute la France avec elle, Maria Dubuis, de quelques amis de Lyon, de gens qui passent encore, mais elle meurt finalement quand même assez seule et oubliée dans des circonstances qui restent dramatiques, mais sans perdre l'espoir, sans perdre la foi, sans perdre courage. Il y a une phrase de Pauline qu'elle avait reprise chez un de ses confesseurs et que je trouve absolument extraordinaire. Elle disait demander, remercier et attendre. Et quelque part, elle a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire que elle n'a cessé de demander, elle n'a cessé de rendre grâce. Ses écrits, on n'en a pas parlé, mais ses écrits sont tout le temps exprimés sous la forme de l'action de grâce. Donc elle n'a cessé de remercier, elle n'a cessé de rendre grâce, et elle a cessé d'espérer. Et sur son lit de mort, elle a continué à espérer. Elle a pardonné à tous ceux qui lui ont fait quand même tant de mal, hein, en demandant qu'elle puisse avoir une place particulière au ciel pour s'occuper d'eux. Hein. Et donc, elle continuait à prier pour le monde, elle continuait à prier pour l'Église, elle continuait à prier pour les siens, et elle est morte dans une certaine sérénité, 9 janvier 1862.
Elle a été un peu oubliée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est souvenu de Pauline Jaricot et qui a contribué à garder sa mémoire vivante ?
Alors, un neveu, dans un premier temps, parce que sa famille, elle a toujours gardé sa famille proche d'elle. Hein, bon, mais il pouvait pas faire grand-chose. Il voulait bien l'aider, mais il voulait pas rembourser les créanciers. Elle a un neveu qui a essayé de l'aider, mais il y avait du mal. Et donc, il a repris les choses en main. Et il a repris le combat pour la propagation de la foi, pour faire reconnaître comme fondatrice. Puis, il y a Julia Morin, qu'elle avait rencontrée dans ses pérégrinations à La Rochelle et qui a fait toutes ces 20 années de sa vie là avec elle et qui va écrire sa biographie. Et cette biographie va faire pas mal de bruit en 1879-1881 et va être repérée par le pape Léon XIII. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un mouvement un peu à la fois qui va se remettre en route pour essayer de réhabiliter sa mémoire d'obtenir sa canonisation à terme. Alors c'est le pape Jean XXIII qui va la déclarer vénérable en 1963. Et actuellement, il y a toujours procès de béatification en cours.
Merci beaucoup Catherine Masson d'être venue nous parler de Pauline Jaricot. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté libre de sciences humaines à Lille et que vous êtes donc l'auteur d'une biographie qui est consacrée à cette illustre lyonnaise, une biographie parue aux éditions du CERF en 2019. Merci beaucoup à vous encore. Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.